bienvenue dans notre émission consacrée à un vin d'exception. Symbole de fête et de raffinement, le champagne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de cette boisson pétillante, découvrir ses terres d'origine et partir à la rencontre des grandes maisons qui perpétuent son prestige avec Marie-Ange et avec Valérie.
Et oui.
Alors le champagne, ça fait rêver déjà. Le champagne, on associe le champagne à des soirées festives.
C'est vrai.
Voilà. Et qui dit soirée festive dit bonne humeur, la joie. On célèbre aussi au champagne souvent les fêtes de fin d'année, les anniversaires. Il y a toujours une occasion pour boire du champagne.
Les mariages.
Aussi, bien sûr.
Avec les belles fontaines à champagne.
Ouais.
Beau ça.
Le champagne qui trouve ses racines en région champenoise, dans le nord-est de la France, son histoire qui remonte à l'époque gallo-romaine. Lorsque la viticulture s'implante dans la région, mais c'est au XVIIe siècle que l'effervescence du vin champenois devient emblématique. Notamment grâce à Dom Pérignon, moine bénédictin, souvent cité comme l'un des pères du champagne moderne.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver la statue qui a été fabriquée, sculptée par Juan Carlos Carillo, artiste chalonnais. Donc à Auvillet, l'œuvre est visible à tout moment du jour et de la nuit, dans le parc Pierre Cheval d'Auvillet, donc village où le cellérier de l'abbaye Saint-Pierre contrôlait les vignes et les pressoirs jusqu'à son décès en 1715.
Et à titre indicatif, dans la petite abbaye, on peut retrouver aussi son tombeau.
D'accord, toujours à Auvillet.
Toujours à Auvillet, oui.
D'accord. Alors, le succès du champagne repose en grande partie sur son terroir exceptionnel. La région bénéficie d'un climat frais et de sols crayeux qui confèrent au vin leur finesse et leur minéralité. Les principales zones de production sont la montagne de Reims, la vallée de la Marne, la Côte des Blancs et la Côte des Barres. Chacune apportant sa touche caractéristique au cuvée. Pour la petite anecdote, il y a les Chinois, il y a les Américains, avec notamment la Californie, qui ont essayé de
nous
faire
imiter
du champagne. Mais le sol n'est pas le même.
C'est ça. Exactement, l'ensoleillement non plus. Non, c'est vrai qu'un tas de facteurs font qu'on ne pourra jamais...
Bah, c'est surtout, il me semble qu'il faut un sol crayeux.
Un sol crayeux,
voilà.
Oui.
Je pense qu'il n'est pas ça chez eux, effectivement.
Voilà. Et puis non plus, il y a des secrets de fabrication.
C'est ça,
exactement,
bien sûr. Qui ne leur sont pas donnés. Et donc justement, la méthode champenoise, le champagne qui est unique par son mode d'élaboration, la méthode champenoise, ou alors dite la méthode traditionnelle, c'est un processus qui repose sur une double fermentation, la seconde ayant lieu directement en bouteille.
Oui, tout à fait.
Ce qui permet de développer les fines bulles caractéristiques.
Sophie, Marie-Ange, est-ce que vous savez quels sont les trois cépages qui composent le champagne?
Aucunement. Enfin, moi, pour ma part, non.
Alors, vous avez le pinot noir, qui est un raisin noir. Pinot meunier, qui est un raisin noir également. Et le chardonnay, je pense que là, on connaît un peu plus le chardonnay, qui est un raisin blanc. Un pinot noir, un pinot meunier, qui sont deux raisins noirs, plus le chardonnay, qui est un raisin blanc. Nous faisons un vin de champagne qui est blanc.
D'accord.
De couleur, en tout cas.
D'accord. D'accord. Les grandes maisons de champagne, à présent, on en connaît toutes.
Oui, quand même. Oui.
On en a visité.
Ah oui.
Alors, vous aviez visité peut-être une maison de champagne. Pour ma part, j'ai visité la maison Mercier à Épernay.
Ah oui, alors moi, j'ai visité Pommery, mais il y a bien longtemps, à Reims.
Oui, ouais. C'était en petit train. Hein.
Oui, tout à fait.
Petite balade en petit train.
Mais ça remonte à... très très longtemps.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des allées qui sont remplies de de bouteilles qui sont penchées. Il y a la méthode aussi manuelle d'aller tourner.
J'ai fait un petit producteur aussi, mais je ne me souviens plus du nom, du côté d'Épernay, avec l'école de ma fille, ça remonte aussi. Ouais.
On précise qu'en Champagne, justement, il y a la route
des
vins de Champagne. Oui.
Et on peut s'arrêter, les producteurs sont généralement super sympas, ouverts, on peut déguster, on peut acheter directement au producteur, et on peut poser des tas de questions aussi pour se renseigner sur le champagne.
Saviez-vous que le champagne est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015.
Avec une appellation protégée.
Voilà, 2015, donc c'est pas si vieux que ça.
Non, c'est pas vieux du tout. Alors, il y a des maisons de champagne qui ont su imposer leur nom au fil des siècles, hein, avec Mouette et Chandon, la veuve Cliquot, Dom Pérignon, Bollinger, Tittinger, Ruinart.
Ah oui, aussi.
Chacune possède un savoir-faire unique et perpétue la tradition tout en innovant pour proposer des cuvées. Il faut dire aussi que le champagne a un certain standing à tenir. On ne boit pas du champagne comme on boit du vin de table. Ça explique bien souvent aussi le prix de la bouteille, hein, qui est beaucoup plus élevé qu'en ce qu'on peut trouver du vin, ou peut-être du Prosecco, qui est
le
rival italien.
Oui, enfin bon, moi je ne me sens pas en difficulté. Hein. Ouais. Bon, j'ai rien contre le Prosecco, c'est bon, mais je ne me sens pas en difficulté par rapport à notre champagne. Je suis peut-être un peu chauvine, mais non. Alors, quel est le champagne le plus connu ?
Moi, je dirais la veuve Cliquot.
Ouais, 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 la veuve Cliquot, c'est sûr, ou Dom Pérignon, bien sûr.
Exactement.
Dom Pérignon.
Ouais,
le plus connu et peut-être le plus haut standing.
Oui.
Et le champagne le plus cher ?
Dom Pérignon.
Non.
Le Moum ?
Non plus.
Non plus, parce qu'il y a quand même...
Non.
Alors, c'est sûrement une petite maison familiale qui produit très peu de champagne.
Voilà, c'est le champagne Krug, ou Krug, je ne sais pas comment on le prononce, mais oui, c'est le champagne le plus cher. Ouais,
d'accord.
Ouais, ouais.
D'accord.
Et il y a un classement qui a été établi, donc tu nous en parlais un petit peu, Sophie. J'ai trouvé un classement qui est celui-ci. Le premier, ce serait Ruinart, Roderer, Veuve Cliquot, Mouette et Chandon, Tettinger, Moum et Rothschild. Donc, c'est un sort un petit peu des idées préconçues que l'on pourrait avoir. Mais je pense qu'il y a un différentiel à faire entre le classement qui est probablement qualité et le plus bu et ceux que l'on connaît en parallèle. Parce que bon, moi, quand je me suis penchée un petit peu sur ce sujet du champagne, j'ai quand même été surprise par certaines choses et par ce classement qui ne correspond pas nécessairement à nos standards.
Alors moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur la veuve Cliquot, justement, pour imaginer cette jeune femme au 19e siècle. On est au tout début. Elle est dans un monde qui est complètement dominé par les hommes, qui refuse de laisser le destin décider pour elle. Elle est veuve, elle est mariée, enfin elle était mariée à François Cliquot. Elle s'appelle Barbe Nicole Ponsardin et son époux meurt prématurément en 1805. Elle a seulement 27 ans. Et plutôt que de pleurer sur son sort et de prendre son statut de veuve en main, elle relève un défi complètement fou, c'est de reprendre l'affaire familiale et de faire pétiller le monde. Alors je rappelle, on est en 1805, c'est-à-dire que les droits des femmes, on n'en parle pas à cette époque.
Elle est presque avant-gardiste d'ailleurs.
Hein. C'est une avant-gardiste. Alors elle perfectionne l'art du champagne. Son génie, c'est l'invention de la table de remuage qui permet d'obtenir un vin limpide et élégant, aux bulles fines et envoûtantes. Son audace, c'est de déjouer les embargos pour inonder la Russie de ses précieuses bouteilles. Conquérant le palais des stars, son héritage, c'est une maison de renom qui encore aujourd'hui incarne luxe et excellence. La veuve Cliquot, c'était pas qu'une femme d'affaires, elle était une pionnière. Son champagne célèbre pas seulement la fête, mais aussi l'esprit d'innovation et de liberté. Quand on va visiter justement le domaine de la veuve Cliquot, il y a un petit film qui retrace sa vie et qui explique justement les problèmes qu'elle a pu rencontrer, notamment avec les hommes, cultivateurs ou acheteurs, qui ne prenaient pas du tout la veuve Cliquot au sérieux, tout simplement. Voilà, donc vraiment chapeau à cette dame qui a su s'imposer et imposer son champagne.
Tout à fait.
On va parler à présent de Pierre Pérignon, dit Dom Pérignon. Il est né à Sainte-Menou, donc vraiment pas loin, en décembre 1638, 14 septembre 1715. Il devient moine bénédictin et selon la légende, il aurait emporté de Limoux la méthode de la prise de mousse du vin, la méthode qui est dite méthode champenoise. Il serait de ce fait considéré comme l'inventeur du champagne. Et la légende veut que Dom Pérignon est le premier à découvrir cette méthode pour faire mousser le vin en bouteille. À l'époque, les bouteilles étaient bouchées avec des chevilles de bois garnies d'étoupes imbibées d'huile. Et à la recherche d'un procédé plus propre et aussi plus esthétique, Dom Pérignon aurait eu l'idée de couler de la cire d'abeille dans le goulot des bouteilles, leur assurant ainsi une parfaite herméticité.
Étanchéité, oui.
Mais au bout de quelques semaines, la plupart des bouteilles auraient explosé, incapables de résister à la pression. Et en fait, c'est le sucre qui est contenu dans la cire qui tombe dans la bouteille, qui provoque une seconde fermentation, transformant l'acide malique en acide lactique. Alors, on est un peu plus dans le terme scientifique, avec en plus du carbone 11. Et c'est surtout un heureux hasard qui a permis à Dom Pérignon de découvrir la fermentation en bouteille. La méthode champenoise, ou plus simplement, le champagne serait ainsi né. Alors, est-ce qu'on peut dire que le champagne est le fruit de plusieurs hasards, plusieurs expériences?
Oui, je pense. Oui, c'est une évolution, en fait. Et cette liqueur de tirage, elle est faite à partir de vin, de sucre et de levure. Alors, comment obtient-on l'effervescence du champagne? On ajoute au vin une liqueur, ce qu'on appelle une liqueur de tirage, qui est faite à partir de vin, de sucre et de levure. Donc, ce qui va permettre de gérer au mieux le dégorgement et ce qui va permettre de mieux gérer l'explosion du bouchon.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a des pros du champagne, puisque...
Pour ouvrir les bouteilles, tu veux dire.
Oui, parce que ce coup du bouchon qui part, c'est tout un spectacle.
C'est vrai.
Et il y en a qui sabrent le champagne.
Exactement.
Alors moi, j'ai vu faire, c'est assez...
spectaculaire, faut reconnaître.
Oui.
J'avais encore une petite précision. Le degré d'alcool du champagne, est-ce que ça vous parle?
Le degré d'alcool de tous les...
Mais il titre à combien le champagne?
Moi, je dirais 15.
Un peu moins.
Ouais, 10, 11.
C'est pas mal, entre 10 et 12.
D'accord.
Mais souvent, c'est 12 degrés.
Mais l'ivresse du champagne, ça s'accompagne souvent du moment, de la gaieté. C'est enivrant le champagne.
C'est festif, oui.
Alors, on dit aussi qu'un mauvais champagne va donner la migraine, mais jamais un bon champagne. Vous avez déjà entendu
c'est
ça?
C'est vrai, oui.
D'accord. Et vous l'avez déjà testé?
Ah oui.
Oui, mais moi, j'ai testé que du bon, j'ai jamais eu mal à la tête. Donc, finalement, ça me permet d'en boire un petit peu plus.
Alors, en conclusion, le champagne, il est bien plus qu'un simple vin effervescent. C'est un symbole de savoir-faire, de patience et d'excellence, que ce soit pour célébrer une grande occasion ou simplement savourer un instant. Il continue de fasciner et d'émerveiller les amateurs du monde entier. On les voit les touristes, d'ailleurs.
C'est vrai.
Est-ce que je peux donner une petite information?
Bien sûr.
Pardon, une petite information sur les visites de caves. Donc, par exemple, à Épernay, on peut visiter Mercier, le champagne Mercier, où vous pouvez faire la visite en petit train, ou le champagne Nicolas Feuillat, pour les principaux, on va dire. Et à Reims, comme tu nous parlais tout à l'heure, la Veuve Clicquot et Pommery-Vrancken. J'en présente deux, mais les listes ne sont pas exhaustives.
Alors, on rappelle aussi la petite anecdote de l'immense tonneau, en fait, qu'on a surnommé le Foudre Mercier, qui, au 7 mai 1889, a été tiré par 24 bœufs depuis Épernay et qui a atteint enfin l'exposition universelle de Paris sous les acclamations d'une foule. Donc, il a apparemment demandé beaucoup de modifications des routes, des forêts, parce que voilà, ça prenait une place monumentale, en fait.
Et ce gros tonneau, ce gros fût, est présent directement dans le hall d'accueil aussi des champagnes.
Et il était présenté comme la vedette rivale
de la Tour Eiffel. Voilà,
il a bien failli voler, la vedette. On a le litrage, on l'a dit?
Ah oui, alors le litrage, je ne le trouve pas. Par contre, je lis qu'après avoir franchi donc à Paris les fortifications de l'époque, le Foudre emprunte la rue d'Allemagne, puis s'engage dans la rue Lafayette, descend l'avenue de l'Opéra, c'est pour la petite histoire, longe le quai d'Orsay. Et là, il a fallu élargir l'entrée, donc pour le faire pénétrer dans l'enceinte de l'exposition.
Voilà. Alors,
et effectivement, la rivale était la Tour Eiffel.
Donc, c'est un fût de 200 000 bouteilles jaugées par la régie pour 1 600 hectolitres, pesant 20 000 kilos et contenant 800 pièces d'assemblage.
D'accord. Voilà. Donc présent dans les locaux pour la visite.
C'était immense ce truc.
Ouais. Oui.
On voit souvent, hein, on peut voir quand on pose debout, derrière il y a le fût et on est tout petit dedans. Merci d'avoir suivi notre émission et merci Valérie, merci Marion.
Merci Sophie.
Et à très bientôt pour une autre émission.
Et ne buvez pas trop.
Merci Sophie, oui, toujours consommer avec modération.